Dali, Van Gogh, Goya, Dürer, voyage en terre de couleur. Une émission réalisée par Corinelle, un programme Maurice Clément Fèvre. Après une tragédie familiale, notre artiste se prépare pour la dernière exposition des impressionnistes, même si elle n'a produit que peu d'œuvres durant la période du deuil de sa sœur. Reprenons notre palette et chevalet et posons-les en terre parisienne. Bienvenue chez Marie Stevenson Cassatt. L'année 1886 est le témoin de deux expositions majeures pour les peintres indépendants. Tout d'abord, Paul Durand-Ruel organise du 1er mai au 25 mai à la National Academy of Design de New York sa première grande manifestation de tableaux et pastels impressionnistes de Paris, une centaine d'œuvres. Degas y est présent avec les monotypes, Caillebotte avec 10 toiles, ainsi que Marie Cassatt, dont les deux présentations sont empruntées à son frère Alexander, Reading et Portrait of a Lady. Le marchand d'art déclarera plus tard:
l'exposition est un immense succès de curiosité et, à l'inverse de ce qui s'était passé à Paris, elle ne provoqua ni tapage, ni stupide remarque et ne souleva aucune protestation. J'étais presque aussi connu en Amérique qu'en France pour avoir été l'un des premiers défenseurs des grands peintres de 1830.
À cette occasion, Durand-Ruel écoula quelques œuvres auprès des plus grands amateurs d'art du pays, tels messieurs Evemeyer, Spencel et Fitzgerald. Les peintres Whistler et Sargent sont plus célèbres que Marie Cassatt sur leur terre natale. Elle a peu d'affinité avec Sargent, qui avait décliné l'adhésion au groupe des indépendants sur son invitation.
L'ultime manifestation des impressionnistes.
En France, la 8e et dernière exposition se prépare sous l'égide de Camille Pissarron. Elle ouvre au 1 rue Lafitte du 15 mai au 15 juin. Degas, Cassatt et Morisot contribuent aussi à l'organisation et apportent leur soutien financier. 17 participants sont présents. Degas et ses amis prédominent à cette exhibition, à laquelle s'ajoutent de nouveaux venus, tels Paul Signac, Georges Seurat, Odilon Redon, Émile Schuffenecker. L'esprit impressionniste initial est dilué dans un assemblage pictural d'un genre nouveau. Les puristes ont déserté l'invitation, bien sûr. Monet, Renoir, Sisley, Caillebotte. Marie Cassatt y amène 7 œuvres, dont un pastel. Peu de tableaux pour l'artiste qui s'est préoccupé davantage de sa famille que de peinture ces dernières années. Elle expose « Jeune fille à la fenêtre »,« Jeune fille au jardin »,« Jeune fille se coiffant » à Washington, une huile sur toile, exécutée en réponse aux remarques de Degas sur le choix du modèle et le rendu final du tableau. Ayant fait un commentaire audacieux au sujet de la toile d'un ami qu'Edgar a relevé, Marie a voulu prouver sa technicité, même si le modèle est disgracieux. D'ailleurs, elle y a réussi, puisque Degas, admiratif, s'écrie alors:
« Quel dessin! Quel style !»
Marie dépeint une enfant devant sa table de toilette, se coiffant. C'est une œuvre assez élaborée. Le bleu de la chemise et des accessoires de toilette s'opposent au motif fleuri rose des murs. Elle s'est appliquée sur la technique, procurant ainsi une impression d'achevé à sa création cette fois. Degas échangera avec Marie cette toile contre une de ses femmes à la toilette.
Un cadeau imposant.
Au niveau international, les relations entre la France et l'Amérique se détendent peu à peu. Elles se traduisent en cette année 86 par le don de la France de la Statue de la Liberté aux USA. Symbole de la fin de l'esclavage avec ses chaînes brisées à ses pieds et de liberté, elle réconcilie les deux nations en froid depuis des années. La liberté éclairant le monde est le fruit du travail du sculpteur Frédéric Auguste Bartholdi et de l'ingénieur Gustave Eiffel. L'inauguration a lieu le 28 octobre 86 pour le centenaire de la déclaration d'indépendance américaine. C'est aussi l'ouverture du musée du Luxembourg à Paris. Pour le moment présent, Marie est tout occupée aux soins de ses parents, âgés de 81 et 71 ans. Cela lui demande beaucoup d'investissement, au détriment de sa peinture. Ils sont obligés de déménager dans un immeuble avec ascenseur, dans le 8e, au 10 rue de Marignan. Marie conservera l'appartement jusqu'à la fin de sa vie, en 1926. D'ailleurs, une plaque est apposée à cette adresse, rappelant le passage de la peintre dans ses murs. La fin des années 70 et début 80 sont marquées par un ralentissement du marché de l'art, aussi bien en Europe qu'en Amérique. Puis, la reprise au milieu de la décennie signe une évolution dans la facture des impressionnistes, à laquelle Marie Cassatt n'échappe pas. Samuel Avery, marchand de gravures, réussit en 87, à l'occasion d'une exposition à New York, consacrée aux artistes graveuses, à présenter 24 des productions de Marie. Le redémarrage des transactions outre-Atlantique et de ses tableaux en vogue sur sa terre natale incite Marie à se remettre à la gravure. Aussi, elle reprend goût au travail après toutes ces années de parenthèse. À la fin des années 80, elle renoue donc avec la gravure à la pointe sèche, mais d'une manière plus sobre, plus dépouillée. Elle se lance dans une nouvelle série, celle de la maternité. Elle va traiter ce lien mère-enfant de très nombreuses fois. Ses belles-sœurs, nièces et neveux seront une source de modèles inépuisables. Plus tard, elle croquera les enfants de ses connaissances, voisins. Auparavant, en 87, elle nous laisse un tableau à l'huile, portrait d'une femme âgée à Washington.
Quand la passion revient.
Tout d'abord, dès 88, elle rejoint le groupe des peintres graveurs. La société, qui révisera ses statuts en 91 et deviendra la Société des peintres graveurs français, la radiera alors, tout comme Camille Pissarro, au motif de leur nationalité étrangère. Mais cela n'empêche nullement Marie de travailler à la pointe sèche, d'autant plus que maintenant, elle a plus de temps, puisqu'elle ne pratique plus l'équitation, suite à une mauvaise chute.
Qu'est-ce donc la pointe sèche ?
Je vous invite à découvrir ce procédé, en gagnant de ce pas l'atelier du peintre.
L'instant pratique, pratique.
C'est tout simplement une technique de gravure sur plaque de cuivre. Au lieu de dessiner sur une feuille de papier avec un crayon, on utilise une pointe d'acier tranchante ou un outil à pointe de diamant. Le dessin est ainsi tracé directement sur la plaque de cuivre. Les petits filaments au bord de la découpe, appelés barbes, ne sont pas éliminés. Ils permettent de garder l'encre et d'obtenir une image nette. Mais attention à la fragilité du procédé. En effet, lors du tirage, sous une presse douce, les barbilles peuvent s'endommager assez rapidement. De ce fait, le nombre de tirages est assez restreint. Si on veut obtenir un tracé plus profond, on peut utiliser d'autres instruments, comme la roulette ou le burin. La seule condition, pour ne pas rater son dessin, c'est d'avoir un coup de crayon impeccable. Marie Cassatt va exceller dans cet art et nous laisser par la suite de nombreuses esquisses qui vont contribuer à sa consécration comme graveuse. Le thème de la mère-enfant est plutôt porteur en ces temps de post-impressionniste et va apporter un renouveau dans la carrière de l'artiste. Elle va produire toute une série, comme Degas avec ses danseuses, courses hippiques, repasseuses, ou Monet et ses cathédrales, Meules de Foin ou Nymphéa. Puisque Marie a repris goût à la peinture, allons découvrir maintenant quelques-unes de ses créations.
Du côté du musée.
Elle grave sa belle-sœur Eugénia, femme de son frère Joseph Garner, et leur fils, âgé de 2 ans, dans Garner Cassatt, dans les bras de sa mère, à la pointe sèche, National Design Museum de New York. Le style est épuré et va à l'essentiel. Seul le visage de Jenny et de son fils est détaillé, car les corps sont tout juste esquissés. C'est la première pointe sèche de la peintre. Cette belle-sœur sera représentée de nombreuses fois. Elle pose facilement pour Marie. D'ailleurs, elle sera dépeinte dans une attitude identique avec Garner, âgé cette fois d'une dizaine d'années, dans un portrait à l'huile, Jenny Cassatt et son fils Garner, en 95. New York Museum, dans le New Jersey. Toile, là aussi, laissant une impression d'inachevé, même si les visages sont déjà très expressifs. Eugénia est à nouveau croquée en 89, dans Jenny et son enfant somnolent, Fondation Terra, à Chicago. Son neveu Garner sera aussi brossé dans un pastel de 98. Le tableau, assez sombre, montre la figure du garçonnet qui rayonne de lumière dans un costume foncé. Madame Gardner-Cassatt fera don de ce portrait au Musée des Arts de Philadelphie. Comme nous l'avons déjà évoqué, afin de rattraper le portrait peu avantageux que Whistler avait exécuté de son autre belle-sœur, Marie esquisse au pastel en 88 Madame Alexander J. Cassatt en robe de soie bleue assise devant un cadre à tapisserie. Elle en profite aussi pour immortaliser sa nièce dans une robe bleue aussi, mais beaucoup plus ample et moderne que celle de sa mère. Dans Esquisse à mi-corps de Katharine Kelso Cassatt, tableau à l'huile, à Montclair dans le New Jersey. Ce dernier n'est que le prélude du grande toile présentée en 1894 à New York. Katharine a 17 ans. À cette époque, très sportive, elle excelle en équitation et golf. Malheureusement, elle décédera si jeune.
Expansion commerciale.
Paul Durand-Ruel, conforté dans ses précédentes expositions américaines et persuadé d'un marché outre-Atlantique, a créé dès janvier 88 à New York une annexe de sa galerie parisienne. Il va recevoir le soutien complet de Marie Cassatt, qui va lui procurer des appuis non négligeables en termes de débouchés. En effet, son frère Alexander, 7e président des chemins de fer de Pennsylvanie, fréquente John Rockefeller, le colonel Payne, les industriels de l'acier, Alfred Atmore Pope et Whitmore, et celui du papier, Erwin Davis. Il ne faut pas oublier non plus George Lucas, collectionneur d'estampes à Baltimore, ou Samuel Avery, collectionneur d'eau forte. Dans ses locaux parisiens, Durand-Ruel va recevoir de nombreuses fois l'exposition des peintres graveurs. Marie y exhibe un pastel et deux gravures en cette année 89. Elle fait la connaissance du mari de son ami Louise Nelder, Henri Esborn, Eve Meyer. Tous deux ont visité à Paris pour l'exposition universelle. C'est un passionné de peinture et Marie va désormais le conseiller dans ses choix artistiques, notamment impressionnistes. Paul Durand-Ruel devient alors son courtier. À cette époque, Degas, qui s'est mis à écrire des sonnets, consacre un poème à Marie Cassatt.
Une évolution bénéfique.
La peintre s'adonne complètement désormais à l'estampe, la pointe sèche. Elle produit bon nombre de gravures et fait évoluer sa technique en s'orientant vers la couleur suite à un concours de circonstances en 90. Tout d'abord, fin 89, soucieuse de maîtriser toutes les étapes de la production de ses œuvres, elle reprend chez Auguste Delattre, son imprimeur, ses réserves de papier. Elle se justifie ainsi dans un courrier du 10 octobre 89. « Je voudrais m'occuper du tirage de quelques plaques, ainsi que les pointes sèches que j'avais voulu faire tirer par vous. Je vais avoir une presse. » Encouragée par les essais de ses amis graveurs, dont Camille Pissarro, elle se met au travail avec ardeur afin de présenter à la seconde exposition de la Société des peintres graveurs ses œuvres de 1890. Pissarro, qui s'essaye lui aussi à de nouveaux essais de gravures en couleur, s'est également procuré une presse de seconde main. Mais ses résultats ne sont pas aussi probants que ceux de Marie. La peintre expose donc 12 pointes sèches, des aquatintes et un pastel. Le gouvernement français se porte acquéreur de la série des pointes sèches et participe ainsi à la reconnaissance de Mademoiselle Cassatt, spécialiste du duo mère-enfant. Évidemment, tous ne sont pas de cet avis, tel Edmond de Goncourt qui proclame dans son journal de mars 90.
L'admiration dans tous les journaux pour les eaux-fortes de Mademoiselle Cassatt, c'est à mourir de rire. Des eaux-fortes où il y a un petit coin de réussi. Dans un coin, au milieu d'un dessin lourdement bête et d'une morsure maladroite. Oh vraiment, ce temps à la religion du ratage dans le grand pontife et Degas et l'enfant de cœur, Mademoiselle Cassatt.
Laissons donc nos graveurs à leurs espérances pour l'instant et braver les condamnations pour vous donner prochainement rendez-vous ici même pour la suite de Voyage en terre de couleurs.